Bonjour Tiffaine et très bon après-midi à vous. C'est la dernière de la saison pour la compagnie des auteurs. Nous vous proposons un voyage, pas toujours de tout repos, mais c'est ce qui en fait le charme, à travers la littérature maritime.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'océan a inspiré bon nombre d'écrivains et va jusqu'à définir la littérature de certains d'entre eux, comme Conrad ou Pierre Loti, dont on a fini par croire qu'ils n'auraient pas écrit sans lui. Mais la mer, si elle appelle le récit de voyage, a aussi été pour les romanciers une manière de dire métaphoriquement tout autre chose. La mer devient fureur, la mer devient danger, la mer devient amour aussi, comme dans ces vers de Pierre Marbeuf que je me propose de vous lire. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère et l'amour est amer. L'on s'abîme en amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Bonjour Nicolas Hidier.
Bonjour Mathieu.
Vous étiez venu dans la compagnie il y a quelques semaines pour nous parler de Tom Wolfe, dont vous aviez préfacé le volume Bouquin Lafond de son grand roman Le Bûcher des Vanités, ainsi que celui intitulé Un homme, un vrai. Dans cette même collection, vous aviez déjà dirigé le volume consacré à Shanghai et vous avez signé l'avant-propos de l'anthologie intitulée La mer dans la littérature française, toujours chez Bouquin Lafond, anthologie établie par Simon Leys, qui était écrivain, sinologue et un historien de l'art aussi, que vous aimiez beaucoup, que vous avez rencontré quand vous étiez jeune doctorant. Vous étiez justement en train de rédiger une thèse sur lui, enfin sur Pierre Rickmans, car c'est son vrai nom. Depuis, vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier d'entre eux s'appelle « Une boîte de nuit à Calcutta » avec votre ami Mackenzie Orcel, toujours aux éditions Robert Laffont. Alors justement, dans l'anthologie de Simon Leys, on a par exemple des poèmes de Baudelaire sur la mer, et on sait que dans sa jeunesse, Baudelaire s'était embarqué sur un bateau, sur un trois-mâts bordelais, à destination de Calcutta. Mais je crois qu'il n'est jamais arrivé jusqu'à Calcutta, Baudelaire.
Non, il n'est jamais arrivé à Calcutta. C'était pas forcément un très grand marin. La mer, néanmoins, l'a considérablement inspiré. Je crois qu'il a toujours pensé à l'élément, sinon marin, du moins fluvial, à queue. Il compose nombre de ses poèmes en regardant la Seine quand il est à Paris. Et je crois que c'est ce qui a très rapidement intéressé Simon Leys quand il a décidé d'écrire cette anthologie de la mer dans la littérature française. C'était pas forcément de parler de la littérature maritime, de parler uniquement des textes écrits sur la mer, mais véritablement de parler de la mer au cœur de la littérature française.
De la mer et de l'eau, hein, parce qu'il y a aussi de l'eau douce.
Des fleuves, des lacs, on voit même le lac Léman à un certain moment, de l'eau sous toutes ses formes. Alors il a hésité même à un moment, mais pas très longtemps, à appeler son anthologie « Anthologie de l'eau dans la littérature française », mais ça aurait quand même été un titre un peu moins beau, un peu moins fort. Donc il a préféré être plus rapide et appeler ça « La mer dans la littérature française ».
Alors chez Baudelaire, il y a trois grands poèmes très célèbres qui parlent de la mer: L'Albatros, L'invitation au voyage et L'homme et la mer, que je vous propose d'écouter maintenant.
Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables.
Une lecture par Denis Lavant de ce poème, extrait donc des Fleurs du Mal. Il faut dire, Nicolas Hidier, que la mère évoque à Baudelaire et aux poètes et écrivains en général des sentiments bien souvent contradictoires, mais très souvent c'est d'abord de la défiance qu'elle évoque.
Oui, tout à fait, et Simon Leys ne manque pas de le noter dans son anthologie. Baudelaire entretient avec la mère des rapports très ambigus. Il y a à la fois évidemment l'appel du lointain, la volonté de l'évasion, du voyage, qui correspond tout à fait à ce désir profondément enraciné dans l'œuvre de Baudelaire, de s'affranchir aussi des convenances, d'aller aux confins de l'exotisme. Mais d'une certaine manière, Baudelaire n'a jamais vraiment aimé la nature, il préférait l'artifice, il préférait ce qui était sophistiqué et compliqué, et la mère l'inquiétait beaucoup, et on le voit, on le lit, on l'entend dans le poème que nous venons d'entendre. Il y a dans sa vision de la mère une défiance, voire presque une forme de répulsion. Et cependant, ce qui est très intéressant à la lecture, à l'écoute de ce poème, c'est de réaliser qu'il y a souvent une correspondance réalisée, que ce soit par Baudelaire ou d'autres écrivains, on parlera peut-être de Victor Hugo plus tard, entre ce qui se passe à l'intérieur du cœur, ce qui se passe sous la boîte crânienne, et ce qui se passe sous la voûte du ciel lorsqu'on est en navigation.
Tempête sous un crâne.
Tempête sous un crâne, exactement.
Souvent, la mer est une prison quand même pour les écrivains.
Alors je ne sais pas si la mer est une prison. Déjà, il faudrait peut-être diviser la littérature, voir de quelle partie du monde nous parlons, si on parle que de la littérature française ou de la littérature anglo-saxonne.
L'anthologie se contente de la littérature française.
Alors l'anthologie se contente en effet de la littérature française, mais Simon Leys était un immense connaisseur de littérature anglophone et bien sûr le plus grand sinologue que nous avons eu au XXe siècle. Et donc il a en lui, quand il compose cette anthologie, des références à la littérature mondiale, à la littérature chinoise, à la littérature anglo-saxonne. Et du reste, un de ses écrivains préférés, qui était Joseph Conrad, il a réussi à l'intégrer dans son anthologie d'une manière assez naturelle, puisque Conrad, donc, comme on le sait, polonais, sa deuxième langue après le polonais était la langue française, qu'il parlait avec le plus grand naturel, et une partie non négligeable de la correspondance de Conrad, notamment sa correspondance amoureuse, car il était très attiré par les femmes tout en étant assez maladroit, eh bien est écrite en français. Donc il y a quelques notes comme ça de littérature étrangère dans cette anthologie de littérature française. Ce que je veux dire par là, c'est que autant beaucoup d'auteurs anglais, du fait même de leur insularité, ne voient pas la mer comme une prison, mais plutôt bien au contraire comme la voie de communication vers l'ailleurs, vers l'évasion. Tandis qu'en effet, dans la littérature française, surtout si l'on regarde ses origines, les origines de la langue française et la manière de parler de la littérature, il y a quelque chose qui relève un peu de l'enfermement. Mais, pardonnez-moi d'être un peu long, c'est assez normal, puisque la navigation, si on regarde la mer d'un autre point de vue que simplement depuis la côte, lorsqu'on se retrouve sur un bateau, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfermement.
Bien sûr. Mais Conrad disait, de manière un peu étrange, ça fait l'objet d'une note de bas de page dans l'anthologie, que les meilleurs marins étaient les Français, et non pas, comme on l'a toujours cru, et comme on le croit sans doute encore, les Anglais.
Alors oui, et il précise aussi que malheureusement, c'est sûrement à cause du trop fort individualisme des Français que les succès de la marine militaire, de l'armée de mer, n'ont jamais été aussi grands que ceux des Anglais. Les Français aimaient aller à l'abordage seuls, et ils aimaient pratiquer des gestes héroïques, ce qui était assez peu compatible aux grandes stratégies maritimes des armées où il faut aligner des bateaux et gagner plus par l'encerclement que par des faits de bravoure.
Alors ça, Napoléon l'avait plus ou moins compris. Napoléon n'a jamais rien compris à la mer. Et c'est ça qui est formidable aussi dans cette anthologie de Simon Lest, c'est qu'on a des textes de poètes, d'écrivains, mais on a aussi des lettres de Napoléon qui explique comment pour lui c'est un élément complètement en dehors de sa manière de réfléchir. Il comprend pas la mer, Napoléon.
C'est ce qui est très intéressant aussi à la lecture de cette anthologie qui, vous l'avez bien dit, mélange les écrivains, les auteurs de littérature et quelques textes absolument magnifiques, par exemple de peintres, de musiciens, Berlioz, de marins en tant que tels, on en reparlera aussi, mais également de Napoléon. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est pas parce qu'on habite à côté de la mer qu'on comprend la mer. Et un certain nombre d'auteurs, que ce soit par exemple Victor Ségalène n'aimait pas beaucoup la mer. Il était pourtant médecin de la marine. Mmh. Il était originaire de Brest, en Bretagne. Bon, il aurait pu être passionné de la mer, mais finalement, quand on parle aux Bretons, quand on lit la littérature du 18e ou du 19e siècle, eh bien, souvent les gens regardent vers la terre. Napoléon, c'est pareil. Finalement, il a une vision continentale de la conquête. La vision maritime lui échappe grandement. Et il y a une forme d'incompréhension du geste maritime, tout simplement relié aussi aux traditions de l'armée en France, et spécifiquement de l'armée napoléonienne, qui est une stratégie terrestre d'avancer de troupes à terre et fantassins ou à cheval. Et ça, malheureusement, sur un bateau, ce n'est pas possible. Et les bateaux sont plutôt réservés. Eh bien, en effet, aux découvertes ou alors à des aspects de la guerre, mais c'est jamais l'essentiel d'une stratégie.
Alors, Ségalène que vous citez, Nicolas Hidier, est très important pour Simon Lest, parce que Simon Lest, dont le vrai nom est Rickman, a choisi son pseudonyme à cause de ce personnage de Ségalène, qui s'appelle René Lest.
Tout à fait. Pierre Rickman, c'est donc né en 1935. C'était un étudiant extraordinairement brillant, qui a fait des études de droit et d'histoire de l'art à l'université de Louvain.
Il était belge. Hein.
Il était belge, en effet, d'expression française. Et il a découvert la mer dans sa plus jeune enfance grâce à sa mère, Marguerite Rickmans. Et ensuite la Chine. Il est donc allé en Chine, d'abord au milieu des années 50, puis dans les années 60, à Taïwan, puis ensuite à Hong Kong. Et c'est là qu'il a écrit des livres absolument extraordinaires sur l'histoire de l'art chinois. Il a traduit des textes magnifiques, notamment à la faveur de Longue Navigation, une de ses premières traductions, Les Six Récits au fil inconstant des jours, qui est une œuvre divine de Shen Fu. Il l'a traduit du chinois vers le français à la faveur d'une longue navigation.
Parce que lui-même avait été un peu marin aussi. Il avait voyagé sur des thoniers, comme il le raconte d'ailleurs dans un de ses récits.
Tout à fait. Comme beaucoup, il a découvert la littérature en même temps qu'il a découvert le récit d'aventure, la mer, grâce à Jules Verne, qui a une place importante dans son anthologie. Et à l'âge de 12-13 ans, comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de jeunes lecteurs. Et donc, il avait envie de découvrir lui-même la mer et l'élément de navigation. Et sa mère aimait naviguer de manière plaisancière, hein. Mais elle aimait ça, elle aimait lui faire admirer les bateaux dans le port d'Anvers. Et le jeune Pierre et son frère Jean-Marie ont toujours été très, très, très admiratifs de l'élément maritime. Et en effet, quand il avait à peu près 17 ans, il me semble, il a effectué, grâce au père d'un de ses camarades de classe, une première navigation. Il a même effectué en fait une navigation assez complexe d'une grande pêche en Islande. Oui. Et plus tard, à peu près 5 ans plus tard, très peu de temps avant de partir en Chine, à Taïwan pour être plus précis, il a en effet effectué ce qu'on appelle une marée, c'est-à-dire une longue pêche sur un thonier breton, donc de 3 semaines, et il en a tiré un récit absolument extraordinaire qui s'appelle Prosper, du nom du bateau. Et ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, ce récit, il l'a publié dans un petit journal d'étudiants, ça a été repris ensuite, mais il l'a longtemps oublié. Et c'est en fouillant dans ses affaires, au début des années 2000, qu'il est retombé dessus. Je dois ce détail à Philippe Paquet, l'auteur d'une très très bonne bonne biographie de Simon Leys, navigateur entre deux mondes. Et il redécouvre ce petit récit et il décide de le republier. Et c'est absolument, c'est très, il a à peine retouché parce qu'il y a tout, c'est sobre, c'est précis. Il y a déjà, ce qui est absolument extraordinaire chez Simon Leys, une maîtrise, une érudition et un plaisir de la maîtrise du vocabulaire de la marine.
Et alors il le publie en même temps qu'un autre récit, Les naufragés du Batavia, qu'il va mettre des années et des années à écrire sur donc cette histoire réelle. Donc il voyait au fur et à mesure les années passant des livres publiés qui racontaient l'histoire que lui-même voulait raconter, mais qu'il ne prenait pas le temps finalement de coucher sur le papier. On a donc attendu ce livre pendant des années et on a eu raison de l'attendre parce que c'est un livre absolument extraordinaire qui aurait dû figurer dans cette anthologie tellement il y a sa place.
Ah, je le souligne dans mon avant-propos, c'est le texte d'accompagnement nécessaire, Les naufragés du Batavia. Et en effet, il a pendant 18 ans collecté des matériaux sur ce naufrage terrible, une sorte de choc à l'époque, on est au début du XVIIe siècle, d'un grand bateau, trois mâts, de la compagnie hollandaise des Indes orientales, qui s'échoue en 1624 au large de la côte méridionale de l'Australie. Donc il faut retenir aussi que Simon Leys, belge de naissance, français par la langue, a rapidement fait le choix de s'installer en Australie pour des raisons universitaires, personnelles, politiques aussi d'une certaine manière, puisque le nom de son pseudonyme, Simon Leys, en effet il l'emprunte à Victor Segalen, mais il prend un pseudonyme pour une raison assez importante, c'est que il était historien de l'art en Chine, il publie en 1971 Les habits neufs du président Mao, qui est la première attaque, une attaque extrêmement forte et précise de la réalité terrible et sanglante de la révolution culturelle en Chine, et là malheureusement il choisit un pseudonyme pour essayer de protéger sa carrière universitaire et de conserver sa liberté de circulation en Chine. Et bon, malheureusement, son pseudonyme n'a pas tenu très longtemps, puisque certains intellectuels français, comme Michel Loi par exemple, se sont rapidement fait un plaisir de dire qui était Simon Leys, de livrer son nom, et ce qui lui a du reste posé un certain nombre de problèmes ensuite en Chine, et l'a contraint donc à déménager en Australie.
Alors pour revenir sur Les naufragés du Batavia, je vous propose d'en écouter un rapide extrait, puis vous continuerez de nous en parler ensuite, Nicolas Hidier.
L'épave du Batavia résista 9 jours aux assauts de l'océan. Mais si l'agonie avait duré longtemps, la faim, elle, fut foudroyante. Le navire s'effondra soudain et tout ce qui en restait s'engloutit en quelques instants. Des quelques 70 hommes qui étaient demeurés à bord, il y en eut à peine 20 qui réchappèrent et réussirent à gagner la terre. Durant les dernières 24 heures, l'ancien apothicaire, Cornelis, s'était réfugié sur le beaupré auquel il resta accroché, transi de peur et trempé d'embrun. Tout à la fin, le beaupré se brisa, Cornelis ne savait pas nager, mais il eut la chance de tomber à la mer au milieu d'une masse confuse de planches et d'épars rompus, que le courant et le vent poussèrent jusqu'à la grève du cimetière. C'est ainsi qu'il fut le tout dernier des rescapés du Batavia à prendre pied sur l'îlot, où il arriva d'ailleurs en fort piteuse condition, terrifié, épuisé, à demi noyé. Les autres naufragés l'accueillirent avec d'autant plus de chaleur que dans l'état d'abandon et de détresse où les avait plongés la désertion de tous leurs chefs, Cornelis leur apparaissait naturellement comme le nouveau dépositaire de l'autorité légitime. Parmi les survivants, il était le plus haut placé dans la hiérarchie de la VOC, et, semblait-il, la seule personne capable de les garantir contre le chaos. Ces pauvres moutons croyaient s'être enfin trouvé un berger. Mais leur tragique erreur était bien compréhensible. Cornelis possédait une singulière éloquence qui semble lui avoir constamment permis d'exercer un ascendant presque irrésistible sur tous ceux qui voulaient séduire et manipuler. Et il s'adressait cette fois-ci à une foule particulièrement vulnérable. Leurs récentes épreuves avaient complètement désemparé les rescapés. Durant les tout premiers jours sur l'îlot, 10 d'entre eux étaient déjà morts, apparemment de soif ou, plus vraisemblablement, de désespoir.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de la mer dans la littérature avec vous, Nicolas Hidier, et en particulier de ce récit, Les naufragés du Batavia, de Simon Leys. Que vous inspire cette lecture et ce personnage de Cornelis, 30 ans, ancien apothicaire, qui semble être une espèce de concentré de tout ce que la nature humaine peut faire de pire dans des conditions comme ça, d'une communauté obligée de vivre sur une île après un naufrage.
Je crois que Les naufragés du Batavia est sans doute le livre le plus important de l'œuvre de Simon Leys, car il rassemble non seulement sa connaissance très précise de la mer, il décrit très bien finalement la méthode de Simon Leys, c'est-à-dire une immersion, une documentation. Il a travaillé pendant 18 ans sur cette histoire.
Pour un essai très très court finalement.
Pour un essai à la fin très court. C'est aussi l'humilité absolue extraordinaire de Simon Leys, puisqu'il le dit dès le départ. Il dit que finalement il y a un auteur qui s'appelle Mike Dash qui a écrit un livre qui s'appelle L'archipel des hérétiques, hein, sur ce naufrage, qui est un livre définitif. Et Simon Leys s'excuse presque d'avoir publié Les naufragés du Batavia.
Il dit que c'est une introduction qui doit donner envie au lecteur de lire cet autre livre.
Et ça c'est génial. C'est chez Simon Leys toujours cette humilité qui est vraiment extraordinaire. Très rare. Et par ailleurs, c'est une description, en effet, d'un phénomène totalitaire. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Simon Leys a vu la Chine se refermer sur elle-même avec la révolution culturelle, avec qui est résumé finalement par cette espèce de citation d'Edmund Burke, hein, au début des naufragés du Batavia: tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les braves gens ne fassent rien. Et Mathieu, vous me posez la question de ce Cornelis, et en effet, ce Cornelis qui finalement n'est pas un génie, simplement quelqu'un de très frustré par la vie, il décide donc de partir loin, tenter l'aventure, devient un despote, un petit despote qui établit un système, une sorte de système totalitaire, extrêmement violent, basé sur l'injustice, sur l'inverse même de l'état de droit, une forme de dictature violente, tout le monde souffre, tout le monde est obligé d'être responsable et meurtrier. Il détruit toute notion d'innocence, exactement ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, où tout le monde a contribué d'une certaine manière au drame. Et c'est difficile pour Simon Leys de comprendre ça. Alors il émet quelques hypothèses, et notamment une hypothèse extraordinaire, fascinante même, je trouve, dans Les naufragés du Batavia, c'est qu'il crée une généalogie du mal. Il remonte à un peintre qui s'appelle Torrentius, qui était à cette époque-là une sorte de peintre maudit, voire sataniste, qui avait développé toute une thèse autour de du mal qui devait triompher,
et ami de ce Cornelis,
voire maître de ce Cornelis. Et donc c'est une des hypothèses de Simon Leys, ce qui lui permet aussi de parler de l'art et de la politique dans Les naufragés du Batavia. Et c'est pour ça aussi que je pense que ce livre est extrêmement important, c'est qu'on voit que l'art, qu'il soit le beau ou le violent, mais en tout cas est souvent relié aux politiques et permet de développer des systèmes politiques.
Alors on ouvre Ces naufragés du Batavia sur un vers d'Euripide dans Iphigénie en Tauride qui dit « La mer lave tous les crimes des hommes ». C'est plutôt le contraire qu'on semble comprendre à la lecture de ce livre quand même.
Disons que Simon Leys lui-même l'a dit plus tard, parlant de cette citation d'Euripide. Certes, la mer lave, en tout cas permet peut-être d'oublier, mais le crime reste. Et je crois que c'est aussi une dimension importante qu'il faut noter chez Simon Leys. Simon Leys était de religion catholique, et il considérait qu'il n'y avait pas de pardon dans l'oubli. Le véritable pardon est donné par la victime, et il vient de la repentance, il ne vient pas de l'oubli. Donc citant Euripide, la mer lave toutes les souillures des hommes, tous les péchés, toutes les fautes des hommes. C'est vrai que c'est une forme de nettoyage, d'oubli, mais la souillure reste, le péché reste, et la mer finalement n'efface rien.
Alors Nicolas Hidier, on ne peut pas évidemment citer tous les textes, tous les auteurs de cette anthologie, mais il y en a un certain nombre qui sont tout de même incontournables. Par exemple, Chateaubriand, dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe, et un passage justement repris par Simon Leys dans cette anthologie.
Je naquis le 4 septembre 1768, le dernier de 6 enfants. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de Saint-Malo, et à travers les fenêtres de cette chambre, On aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil.
Lecture par Dominique Rosan. On a l'impression que Chateaubriand est né en pleine mer, ce qui n'est quand même pas tout à fait vrai, et même en pleine tempête.
Oui, et je crois que autant le grand siècle, le XVIIe siècle a très largement négligé la mer, le XVIIIe siècle commence à s'y intéresser, bien sûr, mais le grand triomphe de la mer et sa grande revanche dans la littérature française, c'est en effet vraiment la période romantique où la mer symbolise eh bien les tempêtes intérieures. Chateaubriand, Saint-Malo est un port, et tout ça est quand même connecté à l'élément marin. Il voit les marins tout le temps dans toute sa vie.
Il est enterré quand même sur la presqu'île du Grand Bé.
Il est enterré
en face de Saint-Malo.
En effet, et du reste, l'anthologie, en effet, c'est impossible d'en citer tous les textes présents. Je crois qu'il y en a 70 à peu près, 70 auteurs, dont certains anonymes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Simon Leys projeté d'écrire un tome supplémentaire à cette anthologie, originellement du reste paru aux éditions Plon en 2 volumes. Il avait prévu donc un 3e tome pour le 20e siècle. 3e tome qu'il avait beaucoup avancé, qui s'est jamais terminé pour des questions de droit d'auteur et de difficulté de rassembler certains textes contemporains. Mais il avait très envie de mettre dans ce 3e tome Jean-Paul Sartre parlant de la mer, avec des moments assez extraordinaires dans la nausée notamment, où Sartre parle de la mer. Et il avait également projeté de rapporter cette petite anecdote de Sartre sur la tombe de Chateaubriand pour essayer de mieux comprendre et de jouer de l'humour.
Alors, parmi ceux qui ont parlé aussi très bien de la mer, il y a un historien, Jules Michelet, qui lira un texte un peu délirant, un peu lyrique, qui s'intitule tout simplement « La mer ». Je voudrais vous le faire écouter et commenter.
Grande, très grande différence entre les deux éléments. La terre est muette et l'océan parle. L'océan est une voix. Il parle aux astres lointains, répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, aux rivages, d'un accent pathétique, dialogue avec leurs échos. Plaintif, menaçant à son tour, il gronde ou soupire. Il s'adresse à l'homme surtout. Comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance, il en a la vivante éloquence. C'est la vie qui parle à la vie. Les êtres qui, par millions, milliards, naissent de lui, ce sont ses paroles. La mer de lait dont ils sortent, la féconde gelée marine, avant même de s'organiser, blanche, écumante, elle parle. Tout cela, ensemble, mêlé, c'est la grande voix de l'océan. Que dit-il ? Il dit la vie, la métamorphose éternelle. Il dit l'existence fluide. Il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre. Que dit-il ? Immortalité. Une force indomptable de vie est au plus bas de la nature. Combien plus au plus haut, dans l'âme ?
Texte très beau mais très étrange, Nicolas Hidier. C'est vrai que la mer appelle aussi farouchement le lyrisme.
Oui, Simon Leys a eu du mal à choisir l'extrait qu'il désirait sélectionner pour son anthologie. Il le dit lui-même, livre étrange, monographie savante.
On se demande ce que c'est en effet. Oui.
Délire lyrique, oui. Amorce de roman à la guimauve, prophétie écologique. En tout cas, pour lui, La mère de Jules Michelet est un enchantement, mais un enchantement un peu délirant. Et c'est vrai que La mère inspire quand même aussi un certain nombre de délires. Simon Leys lui-même, c'est pour ça qu'il est intéressant de se rappeler qu'il a eu cette expérience de la mer, qu'il n'a cessé de naviguer, et du reste il faisait partie des écrivains de la marine, il a pu naviguer sur, compris des grands bateaux de la marine marchande, il avait une expérience réelle, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur la mer, qui l'a regardé du rivage, et c'est exactement évidemment le cas de Jules Michelet. Jules Michelet n'a vu la mer que du rivage. Cela étant, il y a quand même quelqu'un qui a su reconnaître le génie littéraire et le plaisir de lecture de La mère de Michelet, c'est Pierre Loti, qui lui était un marin et qui a écrit la préface de La mère de Michelet un peu plus tard.
Alors Michelet regardait la mer du rivage parce qu'il regardait les gens se baigner, et d'ailleurs il y a tout un chapitre sur les bains de mer où il explique finalement que c'est la mer qui rend beau, la mer qui permet de réparer les corps, permettre une renaissance aussi de la beauté, une vie nouvelle. Il y a aussi cette petite mer-là, il n'y a pas que la mer déchaînée.
Mais tout à fait, tout à fait. Les auteurs aiment se baigner. Victor Hugo, par exemple, dans sa correspondance, raconte un certain nombre de bains de mer. Il sort recouvert de la salive de l'océan, comme il dit. Les bains de mer, bah, par exemple, dans la collection bouquins, est sorti récemment Paul Morand, où on voit l'écrivain Morand ne cessant de barboter, de se baigner dans le plaisir du corps. Et je ne peux m'empêcher de citer, juste au début de l'été, un des autres passages de l'anthologie de Simon Leys, qui est très drôle aussi. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Simon Leys, il avait énormément d'humour, il aimait rire, et il cite Alphonse Allais. Alors je vous le cite, je trouve ça absolument génial. Donc, les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants, dans l'espoir, souvent déçu, de noyer les plus laids.
Allez, on va continuer à parler de la mer dans la littérature avec vous et à partir de l'anthologie constituée par Simon Leys, reparue sous votre égide dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont. Mais tout de suite, c'est le moment de faire un détour également au maritime. Vous allez l'entendre par la chronique d'Aliette Armel.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Aliette Armel, vous êtes écrivaine et critique littéraire. Vous venez nous voir régulièrement le jeudi pour un pas de côté sur le thème de l'émission du jour. Et aujourd'hui, vous avez relu pour nous le livre de John Cowper Powys intitulé « Les sables de la mer ».
Alors John Cowper Powys est un écrivain de la malédiction. Malédiction d'être poursuivi lui-même par une obsession perverse pour les mollets nus des jeunes filles. Malédiction d'exalter son auditoire populaire lors de conférences littéraires aux États-Unis, mais sans pouvoir franchir les barrières que lui opposent les tenants de la respectabilité. Malédiction d'avoir laissé une œuvre troublante, portée par des flux de conscience à l'exaltation souvent mystique, et qui n'a trouvé que de rares défenseurs, mais parmi eux tout de même, un turiféraire de marque, Henry Miller, qui le cite dans Les livres de ma vie. Powys est absent de la longue liste des écrivains anglo-saxons cités par Simon Leys dans le liminaire de son anthologie vouée à la mer dans la littérature, liminaire où il s'accorde le plaisir d'évoquer ceux qui lui sont le plus chers parmi les exclus de son recueil limité à des textes écrits en langue française. Powys offre pourtant une illustration remarquable de ce tempérament maritime considéré comme spécifique du caractère anglais dans le début de Jeunesse de Conrad, invoqué par Simon Leys. Ceci n'aurait pu se passer nulle part ailleurs qu'en Angleterre, dit Conrad, où les hommes et la mer s'interpénètrent. Le chef-d'œuvre de Powys, Les sables de la mer, Weymouth Sands en anglais, roman énorme, interminable et épuisant selon Daniel Rondeau, n'aurait pu se passer nulle part ailleurs que dans une petite ville de la côte anglaise en 1912, précise l'auteur. Mais la datation a-t-elle de l'importance tant c'est l'éternel humain qui est ici convoqué? Un humain totalement imprégné par la présence de la mer, mais les personnages sont des terriens. Et même celui qui navigue, Adam Scald, ne va pas plus loin que ce qu'exige de sa profession de caboteur. Mais leur flux de conscience, dont le déferlement submerge le lecteur, entre en résonance avec tout ce qui vient de la mer, elle que les premières phrases du livre décrivent comme un gouffre insatiable et une antique ennemie de la terre. Elle dont le mouvement perpétuel, vagues et marées, bourrasques et tempêtes, met à l'épreuve la fragilité des hommes, ainsi contraints à sortir de leur prétendue insignifiance. Les pensées de Perdita, écrit Powys en parlant de l'amoureuse d'Adam Scald, se changeaient en vagues, en galets, en sable, en cris de mouette, en la pénétrante, toute puissante odeur de vieux amoncellement d'algues, en cette sécheresse de la plage, en pente au-dessus d'elle. Jusqu'au fond des maisons et des chambres, l'odeur, le bruit, la sensation d'humidité et parfois de pourriture poursuivent les personnages, agissent comme une puissance immanente sur l'esprit de ces hommes et de ces femmes. La monotonie de leur vie pourrait les assoupir, mais ils se retrouvent confrontés à des pulsions violentes qui les portent jusqu'à un paroxysme, celui des tristesses morbides, de l'amour passionnel, de la folie mystique et du sang répandu. Ils rejoignent ainsi le déchaînement des éléments insensibles, la violence originelle et des profondeurs presque inhumaines, source d'une terreur sacrée. La mer peut manifester une âme, lançait Chitao dans ses propos sur la peinture du moine Citrouille amer, traduit par Simon Leys, ou plutôt par Pierre Rickmans. Chez Powys, la mer confronte le plus souvent l'âme aux profondeurs du désespoir et au séjour du diable. Dans la dernière page des Sables de la mer, la jeune Sue se met à crier, le visage levé par le serpent de mer, comme si elle s'était adressée à l'Éternel. Pourquoi, oh pourquoi, est-ce que je suis née ? Elle se faisait le porte-parole de cette détresse qui souffle avec le vent, monte et descend avec la mer, qui est sans motif, non humaine, et semble plus ancienne, plus tragique que toutes les agitations des humains. Même lorsqu'ils ne quittent pas les rivages, la mer entraîne les humains vers l'inconnu, celui qui se cache au-delà de l'horizon du fond de leurs âmes.
Et pour relire ce beau roman, on peut le trouver aux éditions Christian Bourgois, oui. À l'Étarmel.
Voilà, donc mon exemplaire date de sa parution, alors j'espère qu'il a été repris en 10-18 ou qu'il existe encore, traduit par Maria Canavaglia, avec une préface de Jean Val.
Merci beaucoup Étarmel, à très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes aujourd'hui en plein océan dans le sillage de Simon Leys et en route avec Nicolas Hidier qui nous guide, poussé par le vent de la mer, pour reprendre le titre de ce texte de Victor Hugo dont voici un extrait.
Le vent maltraite la mer. La voix de fée va jusqu'à troubler ce vaste rythme qu'on appelle la marée. Les flots bourrelés s'insurgent, de longs nuages, vessies électriques se gonflent et, à un renflement difforme, on devine dans leurs flancs la foudre, prisonnière comme la bête morte dans le ventre du boa. L'écume ruisselle à mille plis sur les reins de l'écueil, comme la robe de lin sur les hanches de Vénus anadiomène. Le baromètre baisse, puis monte. Même je sombre dans l'orage. On entend le sanglot de la création. La mer est la grande pleureuse, elle est chargée de la plainte. L'océan se lamente pour tout ce qui souffre. Sous l'eau, les effluves vont et viennent avec une vitesse de 70 000 lieues par seconde. Du pôle boréal, qui a un volcan, l'éclat, au pôle austral, qui en a deux, Erebus et Terror. Le liquide et le fluide combattent. Les solitudes sans défense subissent les chocs de ce tournoi sauvage. S'il n'y a personne, déluge. Si l'homme est là, naufrage.
C'est peut-être lui finalement, Victor Hugo, le grand écrivain de la mer, Nicolas Hidier.
En tout cas, Simon Leys lui accorde une place royale et tout à fait nécessaire dans son anthologie. Victor Hugo, qui à la fin de sa vie disait « J'ai eu deux affaires dans ma vie, Paris et l'océan ». Et comme
on dirait du Joséphine Baker.
Et comme l'écrit Simon Leys, qui le connaissait bien, qui lui a consacré plusieurs essais, c'est en effet, paradoxalement, au moment de ses longues années d'exil dans les îles de la Manche, qu'il a connu à la fois une période de la plus grande fécondité, puis aussi du plus grand bonheur. Victor Hugo s'identifiait à l'océan, au point qu'il en a parlé dans tous ses états, qu'il s'y baignait comme on en parlait tout à l'heure.
Qu'il écrivait face à l'océan aussi.
Qu'il écrivait face à l'océan. Sa maison de Guernesey est tout à fait étonnante. Elle aboutit en haut avec cette espèce de jeu de lumière, de puits de lumière à cette dernière chambre où c'est vraiment lui, Hugo, face à l'océan. Il a une vision cosmologique de l'océan. Simon Leys, à plusieurs reprises de son œuvre, compare Hugo dans des notes de bas de page. Il faut être très attentif aux notes de bas de page dans Simon Leys. C'est souvent là qu'il rassemble les moments les plus
subtils. D'ailleurs, parfois,
on se
demande pourquoi c'est des notes de bas de page, parce qu'elles pourraient très bien être intégrées tellement elles sont intéressantes et bien écrites dans le corps du texte.
Ah oui, c'est tout à fait juste.
Parenthèse fermée.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et il compare souvent Victor Hugo à des lettrés ou à des intellectuels, des écrivains chinois. Notamment parce que Hugo, face à la mer, s'est vraiment comporté comme un lettré chinois de la Chine classique, puisqu'il a non seulement composé de la poésie, fait de la correspondance, de la prose bien sûr, mais également qu'il a peint l'océan. Il l'a peint exactement comme un lettré qui, du même pinceau, compose de la poésie et ensuite compose une peinture. Et la peinture se lit et la poésie se regarde. Et donc, il a une appréhension cosmologique de l'océan. Et nous citions Chetrao tout à l'heure, en effet, les propos sur la peinture du moine Citrouille amer. De la même manière, chez Victor Hugo, tout se mélange, tout tend à se mélanger. Comme dans Chetrao, où la montagne devient la mer devient la montagne, dans une sorte de grand mouvement un peu dingue, un peu fou, où à la fin, oui, en effet, les éléments se mélangent et deviennent l'univers.
C'est l'objet de métaphores multiples, la mer, métaphore philosophique pour Victor Hugo notamment.
Oui. Et c'est intéressant de voir, évidemment, face à un élément aussi intéressant, aussi incroyable que la mer, ceux qui s'y sont intéressés, ceux qui ont écrit dessus, qui sont quand même pas la majorité des écrivains, la plupart des écrivains n'ont jamais écrit une ligne sur la mer, mais ceux qui ont écrit dessus, il y a deux écoles, je crois, d'une certaine manière. Il y a ceux qui en parlent avec précision, ceux qui en parlent pour décrire l'élément, pour décrire la navigation avec des éléments très concrets, avec un vocabulaire concret. Et puis il y a ceux qui utilisent la mer comme une grande métaphore du mouvement cosmique ou du mouvement humain. Mmh. Victor Hugo fait plutôt partie évidemment de la deuxième école.
Quand Simon Leys serait dans l'autre catégorie.
Et Simon Leys serait en partie dans l'autre catégorie, encore qu'il est toujours facile ensuite par analogie de faire des comparaisons. Les naufragés du Batavia, on le voit écrivant ce petit livre, on ne peut s'empêcher de penser à la Chine maoïste. Mmh. Cela étant aussi, Simon Leys a consacré donc 10 ans à la réalisation, 10 ans à la réalisation de cette anthologie, 18 ans à l'écriture la recherche des naufragés du Batavia, mais également des dizaines d'années à la traduction qu'il a fait traîner le plus longtemps possible, tellement il aimait ça, d'un des grands classiques de la littérature marine, qui s'appelle « 2 ans sur le Gaillard d'avant » de Richard Henry Dana, qui est un des plus grands livres, une sorte de Melville avant Melville, qui raconte l'histoire d'un jeune avocat américain qui fait une longue traversée de 2 ans de Boston, passant par le Cap Horn et rejoignant la Californie, qu'il raconte, mais avec un détail précis, une précision extraordinaire, où il y a assez peu de sentiments. Le sentiment vient dans la description. Et ça, c'est le grand art du roman de Richard Henry Dana.
Alors, il y a les travailleurs de la mer dans cette anthologie de Victor Hugo. Il y en a même de très longs passages. Il y a des chapitres de l'homme qui rit. Il y a un certain nombre de pages d'anthologie. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le Victor Hugo de cette anthologie-là? Quelles sont les pages qui vous retiennent le plus, Nicolas Hidier?
difficile de choisir au sein d'une anthologie, ma propre anthologie, mais ce qui me touche le plus, pour vous répondre concrètement, c'est la correspondance d'Hugo. Je trouve les lettres que Hugo écrit, notamment à sa femme Adèle, absolument extraordinaires. Il décrit ses promenades du soir au bord des falaises d'Étretat, par exemple, absolument magnifiques. Et je crois qu'il y a chez Hugo parfois un emportement lyrique qui peut nous en éloigner un petit peu. C'est un tel génie, une telle montagne, que parfois on a l'impression que c'est inaccessible. Ses lettres, brusquement, dans sa correspondance, le font redescendre un tout petit peu, le rendre extrêmement humain. Mais ce qui me touche aussi chez Hugo, et je crois que c'est ce qui touche Simon Leys également, c'est que Victor Hugo n'a jamais eu une expérience uniquement livresque de la mer. Il a adoré également embarquer lui-même naviguer, lui-même être proche des marins. Et même si ensuite il utilise la mer et l'océan pour faire ses grandes métaphores, il a quand même été toujours très attentif à la réalité de la mer. Et ça, je trouve que c'est très touchant chez quelqu'un qui, même s'il est parfois considéré comme mégalomaniaque, a toujours été attentif à la réalité sobre
des travailleurs de la mer,
et justement. Concrète des travailleurs de la mer.
Est-ce que vous avez le sentiment que la mer, la tempête, est associée à la femme chez Victor Hugo, ou est-ce qu'il n'y a pas de genre finalement de ce grand espace liquide pour lui?
Il me semble que pour Hugo, la mer, c'est Dieu. Est-ce que les anges ont un sexe? Je crois vraiment qu'il est face, quand il est face à l'océan, il est face à l'immensité, au sentiment océanique, comme on dit finalement. Il est face à une notion très, très panthéiste. Il est face à une divinité. Alors, une divinité ou un dieu, je crois pas que ça soit si important que ça pour lui.
Allez, faut écouter un petit peu de Jules Verne à présent, qu'on ne peut pas oublier.
La pluie tombe et je vois les gouttelettes rebondir à la surface de l'océan. Le vent qui a fraîchi porte sur nous, pourvu que ce nuage ne s'épuise pas avant d'avoir passé sur notre tête. Dieu a enfin pitié de nous. La pluie tombe à grosses gouttes, telles qu'en répandent les nuages orageux. Mais cette averse ne durera pas et il faut recueillir tout ce qu'elle pourra donner. Car déjà une vive traînée de lumière enflamme le nuage par son bord inférieur au-dessus de l'horizon. Robert Kurtis a fait dresser la barrique brisée de manière à retenir le plus d'eau possible, et les voiles sont déployées pour recevoir la pluie sur une plus grande surface. Nous sommes couchés à la renverse, la bouche ouverte. L'eau arrose ma figure, mes lèvres, et je sens qu'elle glisse jusque dans ma gorge. Jouissance inexprimable, c'est la vie qui coule en moi. Les muqueuses de mon gosier se lubrifient à ce contact. Je respire autant que je bois cette eau vivifiante qui pénètre jusqu'au plus profond de mon être.
Là aussi, Nicolas Hyde, on a l'un des plus grands écrivains français de la mer. Il faut dire qu'il est né à Nantes, hein, Jules Verne, qu'il a lui-même beaucoup voyagé, beaucoup rêvé la mer. On pense évidemment à 20 000 lieues sous les mers, au capitaine Nemo, au Nautilus. Mais là, l'extrait qu'on vient d'entendre, lu par Vincent Grasse, c'était un extrait de Chancellor, qui est aussi dans l'anthologie de Simon Leys.
Oui, c'est un des deux textes retenus en effet par Simon Leys pour son anthologie. Jules Verne était admirateur à la fois de Victor Hugo et de Jules Michelet, que nous avons lu. Il n'a pas eu une grande expérience de la mer, et pourtant, paradoxalement, la mer et le voyage instruisent quasiment toute son œuvre, tous ses romans.
À cause de sa naissance, peut-être?
Probablement à cause de sa naissance, à cause aussi peut-être d'une anecdote qu'il se plaisait à rapporter. À l'âge de 11 ans, il aurait fait une fugue et aurait décidé d'embarquer comme petit mousse sur un bateau à destination des Indes. Son père l'aurait récupéré de justesse avant que le bateau s'en aille, et Jules Verne aurait dit dorénavant je ne voyagerai plus qu'en rêve. Ce qui est intéressant en tout cas avec Jules Verne, c'est qu'il y a le sens de l'aventure, il y a toujours le sens de ces grands mouvements marins qu'on a pu découvrir avec Hugo ou Michelet, mais il y a également la science qui arrive, et c'est le moment aussi où les machines se perfectionnent, où la mer s'industrialise d'une certaine manière. manière. Et c'est absolument extraordinaire de voir, grâce à Jules Verne, l'arrivée de la science-fiction dans la mer, ce qu'elle n'était pas jusqu'alors. La mer devient un univers, devient un lieu de l'étrange, ce qu'elle avait toujours été en revanche. Là, il suffit de lire un petit peu l'Iliade et l'Odyssée. Mais avec de la science, avec de la technologie, avec de l'industrie.
Et on arrive à rêver quand même avec la technologie et avec l'industrie.
Bien sûr, je crois que Jules Verne nous a créé notre manière de rêver avec l'industrie et la science. Il a créé des nouvelles manières de rêver. Jules Verne, en tout cas, a beaucoup compté pour Simon Leys. Et comme pour tout le monde, je crois, parce que c'est grâce à la lecture de Jules Verne quand on est adolescent qu'on généralement on a la première de nos aventures de voyage, que ce soit en rêve ou en réalité. C'est absolument extraordinaire. Les personnages de Jules Verne, comme le capitaine Nemo, ne nous quitteront plus jamais.
On peut les avoir aussi, ces expériences, avec Pierre Loti, qui achève le volume d'anthologie de Simon Leys. Alors, il dit à son propos que Loti n'est pas particulièrement sympathique, mais que c'est un magicien. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Hidier ?
Loti, pendant très longtemps, en tout cas, en effet, n'était plus du tout lu. On l'avait oublié. On lui préférait souvent Victor Ségalen, justement. Enfin, sans qu'on lise énormément Ségalen. Mais il était
un peu difficile à lire.
Difficile à lire. Loti était souvent vu aussi comme très exotique et jetant un regard sur le monde un petit peu compliqué quand même à appréhender, surtout à notre époque. Bon, il avait eu beaucoup de succès, mais il n'était plus vraiment lu. Est-ce qu'il est sympathique ou pas sympathique, je ne sais pas, mais en tout cas, en effet, il y a quelque chose de génial. C'était un vrai marin, comme on se le disait tout à l'heure, quelqu'un qui connaissait très très bien la mer, un grand aventurier, et qui a, par certains de ses livres, notamment Mon frère Yves, vraiment su raconter la mer avec une précision, un lyrisme réellement abouti. Et c'est vrai que Simon Leys a décidé de terminer son anthologie sur Pierre Loti, une manière assez juste de réintroduire Pierre Loti dans la littérature française.
Donc c'est un hommage davantage qu'une relégation à la fin.
Ah oui, non, pour moi c'est clairement un hommage. Et Pierre Loti aimait Simon Leys, au-delà en effet de ce côté un petit peu de cette extravagance un peu pénible, de son côté très exotique, de cette littérature du voyage,
orientalisme
vraiment très marqué, de cet orientalisme qui pèse un petit peu, surtout quand on est sinologue. Mais au-delà de ça, il y a en effet une magie chez Pierre Loti, et je crois qu'il aurait été impossible que Simon Leys fasse cette anthologie sans y inclure Pierre Loti. Et encore une fois, l'anthologie devait se prolonger, donc Pierre Loti c'était aussi une passerelle vers le XXe siècle, et donc il n'est absolument pas relégué.
Vous qui avez bien connu Simon Leys, j'imagine qu'il vous en a parlé de cette anthologie qu'il n'a pas pu terminer, c'était un regret très, très fort pour lui ?
En fait, la première fois que j'ai vraiment eu un échange épistolaire nourri avec Simon Leys, après l'avoir rencontré plusieurs fois en Australie, puis en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Mais la première fois que nous avons eu une lettre nourrie, c'était sur Jack London et sur Martin Eden, et la fin de Martin Eden. Lorsqu'il descend dans l'océan et qu'il rejoint justement, c'est à la fois le suicide, la mort, mais aussi peut-être une forme de renaissance, la mer qu'on retrouve à la fin de sa vie. Et c'est la première fois vraiment que Leys m'écrivait une lettre où il était aussi prolixe en détails, en recommandations de lecture et en partage d'une passion absolue. Et je découvrais qu'autant la Chine, il tenait ses émotions vis-à-vis de la Chine, car je crois qu'il avait été blessé par l'expérience de la Chine maoïste. Et même s'il continuait à fréquenter la Chine classique, la peinture, la calligraphie, qu'il écrivait sur la Chine classique, il traduisait Confucius ou d'autres œuvres chinoises, il avait été vraiment très profondément blessé par la révolution culturelle, et cette blessure était inguérissable. En revanche, la mer ne l'a jamais blessé. La mer a toujours été pour lui à la fois une passion de jeunesse, comme Conrad disait, mais également une passion d'âge de vieil âge, puisque jusqu'à la fin de sa vie, il naviguait en Australie. Il avait un petit bateau qui s'appelait Fosheng, et il naviguait avec sa famille, il naviguait avec ses fils et sa fille. Il n'a jamais cessé de pratiquer la navigation de plaisance, et il n'a jamais eu aucun regret vis-à-vis de la mer. Il n'a jamais été blessé par la mer.
C'est donc sur cette idée d'une mer qui répare que nous allons terminer cette émission. Je voudrais faire simplement une citation de Lautre Hamon dont on n'a pas parlé, mais c'est une belle citation. « Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle. Et si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. » Merci beaucoup Nicolas Hidier. Je renvoie nos auditeurs sur cette anthologie donc de Simon Leys dont vous avez rédigé l'avant-propos dans sa reparution aux éditions Robert Laffont au sein de la collection Bouquins. Son titre c'est donc La mer dans la littérature française. Et puis je signale également votre dernier livre, Une boîte de nuit à Calcutta, coécrit avec Mackenzie Orcel, paru en mai dernier, également chez Robert Laffont. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Guillaume Ledu. Demain, vous avez rendez-vous avec La Compagnie des poètes et une émission consacrée à la chanson et la poésie avec Pierre Lemarchand et Philippe Forest. Nous, on se retrouve dès lundi à 16h pour réentendre le meilleur de La Compagnie des auteurs ces années écoulées. Mais pour l'heure, c'est avec Jacques Bonafé que se termine cette semaine.
Bonjour, bonjour la compagnie. Comment dire Patrick Beurard-Valdois, flash d'Europe, aimant garde-fou, quand ce livre extravagant paru chez Flammarion fait 326 pages. On peut prendre une citation de James Joyce à la page 255. Une grande partie de toute existence humaine se passe dans un état que l'emploi du langage clair, de la grammaire pure et simple et d'une intrigue qui avance en ligne droite ne peut exprimer. C'est dire qu'il est difficile d'entrer dans la construction complexe de Beurard-Valdois, mais il faut aller l'écouter lorsqu'il se lit, lorsqu'il fait des lectures de Flash d'Europe aimant garde-fou. Pour finir, en beauté et dans le thème imposé, nous avons attrapé le magnifique ouvrage de l'édition Poésis, La beauté. Tiens, nous choisissons la page Philippe Jacoté qui est précédée par Rilke, Rainer Maria Rilke. Quelle chose? Une chose belle? Non. Qui eût su dire ce qu'était la beauté? Une chose ressemblante. Une chose où l'on reconnaissait ce que l'on aimait et ce que l'on craignait. Et ce qu'il y avait d'inconcevable dans tout cela. Pour en parler de la beauté, Philippe Jacoté se saisit d'un texte de Senancour. Si les fleurs n'étaient que belles sous nos yeux, elles séduiraient encore. Mais quelquefois, leur parfum entraîne comme une heureuse condition de l'existence, comme un appel subi, un retour à la vie plus intime. Soit que j'ai cherché ces émanations invisibles, soit surtout qu'elles s'offrent, qu'elles surprennent, je les reçois comme une expression forte mais précaire d'une pensée dont le monde matériel renferme et voile le secret. Et Jacoté dit « C'est une chose étrange, d'abord un peu humiliante, puis merveilleuse et rassurante de trouver chez un écrivain antérieur l'énoncé rigoureux d'une expérience que l'on a faite soi-même et aussitôt jugée essentielle. L'extraordinaire ici, pour moi, est que tout y soit, jusque dans les détails. La beauté qui ne saurait être que beauté, son effet d'intériorisation, sa traduction d'une pensée qui serait cachée dans les apparences » et même les conditions de cette sorte d'appel plus pur ou plus fort, ou moins douteux, s'il n'a pas été attendu. Plus tard, Jacoté dit « Je pense au mot cosmos ». Eh ben moi aussi, à l'instant. Et je me saisis d'un poème de Werner Lambertsy que nous citions hier. « Des milliards de galaxies d'étoiles et de soleils circulent tranquilles et en paix dans ma tête. Des milliards de brins d'herbes sauvages potasse dans ma cervelle vide, tandis que le sommeil cadenasse tout au-delà des paupières. » Et je sais pas ce qui me prend, mais enchaînement comme ça, une fois n'est pas coutume, Paul Claudel. Le sommeil, dans le chagrin. Il faut dormir, tout dort. Il faut souffrir la mort. Le jour est mort, dors, le ciel en or, dors. dors, 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 dors.
C'était la dernière de cette semaine de lecture intitulée par Jacques Bonnaffé, Finir en beauté, autour du livre justement intitulé La beauté et édité chez Poésis.